Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Au XVe siècle, les Européens découvrent l'Amérique. Ils vont appeler ce continent le Nouveau Monde. Pourtant, ces territoires jusque-là inconnus des Européens sont riches d'une très vieille histoire.
RTL.
Sans aucun contact avec le reste du monde, les peuples qui se sont succédés ont appris à vivre de façon sédentaire, à construire des villages, puis des villes.
Jusqu'à 22h,
les Mayas, les Aztèques et les Incas ont illuminé l'histoire de tout ce continent.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et alors que des archéologues viennent d'annoncer qu'ils sont sur la piste de cavités, de couloirs méconnus, secrets, dans la pyramide de Khéops, on m'interrompt pas quand je parle, je les entends en Égypte. On se passionne, nous, pour les civilisations qui ont disparu et qui continuent de livrer leurs secrets. C'est le thème passionnant exploré par le magazine Ça m'intéresse et le journaliste Cyril Azoubi. Bonsoir.
Bonsoir Cyril.
On est ravis de vous retrouver au micro de la curiosité.
Moi aussi, ça va être chouette.
Ah, ça va être chouette. Surtout s'il y a des mots comme ça qui arrivent. Elles sont nombreuses, ces civilisations disparues, parce qu'on dit les Mayas, les Aztèques, allez, parfois on pense aux Étrusques. Et puis, on ne va pas souvent de là.
Non, il y en a énormément. Évidemment, il n'est pas question d'en faire le compte, mais il y en a même beaucoup plus que celles qu'on connaît, puisqu'il y en a plein qui ont disparu sans laisser de traces. Celles qu'on connaît, on a quelques vagues traces, on peut vaguement retracer leur histoire. Mais il y en a évidemment plein, probablement une majorité, qui n'ont rien laissé derrière elles.
Alors, je parle de civilisation disparue, mais cet adjectif disparu fait polémique dans le monde des scientifiques, des archéologues, des historiens.
Oui,
pourquoi ?
Il fait polémique parce que, en réalité, même si certains l'ont dit, les civilisations ne disparaissent pas comme ça de la surface de la Terre, comme si une bombe atomique les avait éradiquées. La plupart du temps, les civilisations se transforment en autre chose, les populations se fondent dans d'autres populations, il y a des mélanges de populations, il y a des héritages comme ça qui se perpétuent.
Les Mayas par exemple ?
Les Mayas, les Aztèques, les Mayas aujourd'hui, il y a au Mexique environ 4 à 5 millions de personnes qui se considèrent comme Mayas encore aujourd'hui. Donc c'est plutôt des mélanges que des disparitions brutales. Comme ça.
Alors les Mayas justement, quel territoire ont-ils peuplé et à quelle époque ?
Alors les Mayas, ils ont occupé donc sur une très très vaste période, hein, entre environ moins 1000 jusqu'à 1700 de notre ère, une vaste zone qui correspond aujourd'hui à l'Amérique centrale, hein, le sud du Mexique, le Belize, le Guatemala, le Honduras et le Salvador.
Donc 2600 à peu près ans de
2700 ans de règne.
Ans de règne. Est-ce que c'est long ?
C'est considérable.
Oui, pour une civilisation, c'est important.
C'est énorme. À titre d'exemple, les Incas, par exemple, ont régné 300 ans. Hein, les Étrusques, dont on va parler tout à l'heure, 500 ans, 600 ans. Voilà, là, on a 2700 ans d'histoire. C'est gigantesque.
Et pourquoi ont-ils disparu ? Ou en tout cas, pourquoi se sont-ils effiloché, si j'ose dire.
C'est vraiment toute la question qui entoure la civilisation des Mayas. On ne sait pas aujourd'hui véritablement pourquoi. On a plein d'hypothèses. Hein. Je crois que c'est même l'une des civilisations sur lesquelles il y a le plus d'hypothèses.
De théories, c'est ça ?
88 théories élaborées, je crois.
C'est
je sais pas qui a compté, mais en tout cas... Oui.
Alors nous, on en a choisi une. Enfin, vous plutôt, c'est vous qui avez bossé sur le sujet. Ah, ça m'intéresse. La sécheresse.
Oui, alors... Même
que
si
se serait-il passé chez les Mayas ?
Alors, oui, effectivement, il y a eu cette thèse là, elle a eu le vent en poupe il y a environ 10 ans. On a pensé, effectivement, et certaines données le laissent à penser, qu'il y a eu une vague de sécheresse terrible qui a frappé toute la région. Voilà, entre les 9e et 11e siècles. Voilà. Cette sécheresse aurait, par contre-coup, entraîné tout un tas de catastrophes, famines, guerres, etc. Aujourd'hui, c'est une théorie qui a un peu perdu de puissance, et on s'achemine vers véritablement un faisceau d'explications. Voilà, ce serait véritablement une disparition multifacteur.
Plusieurs événements en même temps qui expliquent
la disparition. Plusieurs explications, ouais. et la sécheresse en fait partie, mais n'est pas la cause principale.
Et du coup, comme cette civilisation a laissé des traces, mais parcellaires, fragmentaires, on se pose encore plein de questions. Par exemple, pourquoi la civilisation Maya n'a-t-elle pas utilisé la roue, alors que manifestement... Elle la connaissait.
Oui, elle la connaissait, et on le sait parce que on a retrouvé, notamment sur le site de Palenque au Mexique, des jouets d'enfants, hein, qui sont montés sur roues, des petits chariots, des petits traîneaux, des choses comme ça. Donc on sait qu'ils connaissaient la roue. Or, on a retrouvé aucun vestige, ni de chariot, ni de poulie, ni rien qui puisse laisser penser qu'ils l'utilisaient.
Et ça veut dire que s'ils ont utilisé pour leurs enfants, ils l'ont pas utilisé pour eux, les Mayas.
Ils l'ont utilisé pour eux, alors même qu'ils avaient des routes. Hein, rectiligne, un environnement, un commerce évidemment très fort, donc un environnement qui se serait prêté à l'utilisation de la roue.
S'ils avaient utilisé la roue, Est-ce qu'ils auraient, je ne sais pas, perduré? Est-ce que c'est une civilisation qu'on connaîtrait toujours aujourd'hui?
Ça, c'est évidemment très très difficile à répondre, hein, vous me posez une colle. La raison pour laquelle ils n'ont pas utilisé de roues, c'est probablement qu'ils n'avaient pas d'animaux de trait. Hein, les Mayas n'avaient ni chevaux, ni ânes, ni lamas. Donc, ils auraient dû traîner ça à dos d'homme, c'était impossible. Donc voilà, a priori, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas utilisé la roue. Après, est-ce que s'ils avaient eu la roue, utilisé la roue, est-ce qu'ils ça aurait pu retarder leur disparition? C'est impossible à savoir.
Parmi les autres mystères, et moi j'ai découvert celui-ci en lisant le Ça m'intéresse consacré aux civilisations perdues, l'existence de rois serpents. C'était quoi les rois serpents dans la civilisation maya?
Alors, il faut savoir que l'une des cités les plus importantes dans le monde maya, c'était la cité de Tikal, hein, aujourd'hui dans l'actuel Guatemala. Et dans cette cité, entre 560 et 690 de notre ère, il y a un trou. Pendant 100 ans, comme ça, il ne se passe plus rien dans cette cité. Il n'y a plus d'inscription, il n'y a plus de construction. Et il semble qu'il y a même eu une mutilation volontaire des sculptures publiques de la part de la population. Une sorte de suicide, comme ça, une sorte de passage à vide énorme de plus de 100 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en réalité, ce qu'on a trouvé dans les cités avoisinantes de cette cité de Tikal, on a trouvé des glyphes, des écritures énigmatiques avec cette forme de tête de serpent hilar. Et ça a mis les chercheurs sur la voie d'une civilisation, d'une dynastie en tout cas, d'une dynastie maya totalement inconnue jusque-là, la dynastie des rois serpents, qui semble-t-il a, en son temps donc, exercé une hégémonie très 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 forte sur la région, en détruisant, en asservissant les cités voisines.
Et en détruisant les statues ou les représentations
des rois précédents, c'est ça ? En paralysant la vie culturelle de cette cité et des cités environnantes.
Allez, tout de suite, on part découvrir une autre civilisation aujourd'hui disparue, les Anasazi, qui peuplaient l'Amérique du Nord, c'était il y a 1500 ans, sans doute les ancêtres des Indiens. C'est passionnant, restez sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Alors, je vais vous avouer quelque chose. Dans notre studio de la curiosité, on a Gérald Chaland, notre producteur en pleine forme. On a André Facetta, notre réalisateur. C'est sa fête. Bonne fête, André.
Ah, joyeux anniversaire, André.
Elle n'a rien compris. Hein. Ça fait 10 minutes qu'on fait cette vanne. C'est pour ça qu'on vous l'offre aussi. Et puis, on a une petite machine qui est dans un coin du studio. C'est notre machine à voyager dans le temps. Et cette machine, elle nous embarque. Il faut voir ce que Sidonie fait comme
on
geste
a perdu
à côté
Thomas
de moi.
Voilà, bon.
Il est fou. Eh bien, non, cette machine à voyager dans le temps, elle nous permet de partir à la rencontre des civilisations disparues grâce au journaliste Cyril Azoubi du magazine Ça m'intéresse, dossier publié en partenariat avec RTL. Alors, cette civilisation des Anasazi, où vivaient-ils? Qui sont-ils?
Alors, les Anasazi, c'était, si on veut, les ancêtres des Indiens d'Amérique du Nord. Ils ont occupé un territoire qui aujourd'hui correspond à l'Arizona, le Colorado, l'Utah et le Nouveau-Mexique. Et on est entre le 7e et le 12e siècle de notre ère.
Donc c'est les Indiens avant les Indiens, en quelque sorte.
Oui, c'est un peu ça. Mmh. Alors, ils occupent une région qui n'est pas particulièrement sympa à vivre parce que très chaude, très sèche, très
quasi,
peu d'eau.
Quasi désertique.
Même complètement désertique,
d'accord,
on peut dire.
Ouais.
Et ils arrivent à sortir de ce territoire une vraie civilisation complexe, avec des systèmes d'irrigation, des cultures, une hiérarchie sociale, un habitat extraordinaire.
Ils vont, oui, par exemple, construire construire des maisons, c'est ça? C'est vous qui animez l'émission, Cyril Azoubi, c'est très,
très bonne
bon.
Vanne. On fait attention. Pour
honneur aux dames, hein, comme on dit. C'est Anasazi, c'est ça?
Non,
ça, c'est un mélange avec votre nom de famille, Cyril
Azoubi. Ah, si on commence sur les vannes avec les noms.
Non, c'est pas bien. Donc, cette civilisation disparue, Anasazi, elle était bonne, ma vanne, non? Ils ont construit ce qu'on appelle des grands baraquements en bois, en pierre. Et c'était complètement en avance pour l'époque.
Enfin, en tout cas, c'était très audacieux. C'était des structures sur plusieurs étages comme ça, hein, et c'était creusé dans la paroi, creusé dans la falaise. Je sais pas ce qui vous fait rire, mais
Non, non, c'est,
on est dans la falaise.
On est encore dans le fou rire précédent.
C'est moi qui vais disparaître, je vais être une petite civilisation.
Enfin, en tout cas, on a dit des Anasazi que ça avait été les bâtisseurs des premiers buildings en Amérique du Nord, si on veut, des premiers gratte-ciels. Voilà. En tout cas, c'est des grandes habitations comme ça, très hautes, sur lesquelles parfois il fallait grimper sur des échelles pour y accéder. Elles sont encore visibles aujourd'hui. C'est des lieux de visite touristique. C'est très classique pour l'Ouest américain. Voilà. Et donc, le mystère qui entoure cette civilisation, c'est que brutalement, alors qu'ils avaient eu tellement de mal, si vous voulez, à ériger ces habitats, brutalement, en 1130, on peut le dater précisément, le site se vide, tous les sites se vident.
Mais en une année
en 50 ans, comme ça. En 50 ans, ce qui est très, très peu par rapport à la durée
de cette civilisation.
50 ans, c'est très peu.
On sait pourquoi.
Battement de cils. Et là non plus, on ne sait pas exactement pourquoi. L'hypothèse la plus probable, c'est une vague de sécheresse. Alors vous me direz, une vague de sécheresse dans un pays déjà sec. Mmh. Mais visiblement, il pouvait faire encore plus chaud et encore plus sec. Et à ce moment-là, la civilisation avait probablement trop exploité les rares ressources naturelles de l'endroit, de la région. Et donc, ils n'ont pas été capables de supporter ce défi supplémentaire, ce défi climatique. Mmh. Et donc, ils sont partis.
Cyril Azoui, quand on a pris la parole ensemble avec Sidonie, la question que je vais vous poser, c'était: qu'est-ce qui fait qu'on parle d'une civilisation ? Vous avez dressé une liste tout à l'heure, l'agriculture, la culture,
l'art peut-être.
Qu'est-ce qui fait qu'on dit ça, c'est une civilisation ?
C'est une vraie question entre peuple, civilisation, société. On ne sait pas exactement. Et en fait,
la longévité.
J'avais interrogé les experts pour ce dossier et personne n'est d'accord. Voilà. Donc je vous encourage à prolonger l'enquête, mais à ma place. Mais on ne sait pas. Visiblement, enfin en tout cas, pour qu'il y ait civilisation, il faut qu'il y ait trace. Et pour qu'il y ait trace, il faut donc qu'il y ait construction sociale, système d'écriture, éventuellement représentation religieuse, idéologique, enfin voilà. Mais pas forcément. Il y a des civilisations qui n'ont pas laissé d'écriture derrière elles.
Ouais, on parle des civilisations disparues et qui en même temps ont des descendants. C'est le cas aussi pour ces Anasazi.
Oui, alors effectivement, ils disparaissent a priori sans laisser de traces. Pourtant, de nombreuses tribus indiennes d'Amérique du Nord se revendiquent comme étant les descendants des Anasazi. Je pense aux Hopi d'Arizona, par exemple, aux Acoma, aux Laguna du Nouveau-Mexique, et puis notamment aux Navajo. Les Navajo qui, eux aussi, clament leur connexion avec les Anasazi et inventent même le terme. Les Anasazi, c'est un terme navajo qui signifie soit peuple ancien, soit anciens ennemis. On ne sait pas.
Dans un instant, juste après les infos, on va continuer d'explorer ces civilisations disparues et notamment un mystère, le mystère du grand Zimbabwe.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Great Zimbabwe, le plus grand monument aux pierres sèches de l'Afrique subsaharienne. À environ 300 km au sud de Harare, la capitale, cette enceinte, construite au XIVe siècle, est une merveille d'architecture.
La curiosité est un vilain défaut.
En Shona, Zimbabwe signifie maison de pierre, mais aussi maison des vénérables, car ses murs abritaient le souverain qui était également le chef religieux, ainsi que sa cour.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Comment une civilisation entière peut-elle disparaître de la surface de la Terre ? Et d'ailleurs, disparaît-elle vraiment ? C'est le voyage passionnant que nous propose le magazine Ça m'intéresse et le journaliste Cyril Azoui. On est en Afrique maintenant, on est au Zimbabwe. Et là, au milieu de nulle part, se dresse un mystère qu'on appelle d'ailleurs le Grand Zimbabwe. À quoi ressemble ce monument ?
Alors, c'est une espèce d'enclos gigantesque en pierre, avec des murs de 10 mètres de haut, 5 mètres d'épaisseur, et qui est complètement rond comme ça. Et à l'intérieur, des ruines qui semblent absolument inexplicables, sans aucun sens. Voilà, c'est ça l'emblème, je dirais, de ce site.
Alors, qu'en ont pensé les premiers explorateurs occidentaux ? On est au XVIe siècle, ils voient ce grand monument circulaire. Qu'est-ce qu'ils ont dit ?
Alors, c'est des explorateurs portugais qui tombent les premiers sur le site, et leur premier réflexe, c'est malheureusement de se dire: la perfection de construction est telle que ça ne peut pas être des Noirs qui ont construit ça. Voilà. Donc
ça commence bien.
Ça commence bien. Donc ils imaginent toutes les autres hypothèses, y compris les plus invraisemblables, pour expliquer. Donc ils pensent à des bâtisseurs arabes, perses et même chinois. Ils vont chercher très loin. tout plutôt que d'admettre que ça peut être une civilisation autochtone.
Mmh. Au 19e, il y a un peu la même histoire. Alors, à qui on va attribuer la construction de ce grand Zimbabwe ?
L'histoire rebondit au 19e siècle, on est en pleine colonisation. Ouais. Hein, donc là, le racisme est poussé à son extrême, je dirais. Mmh. Et effectivement, toutes les pistes sont explorées, sauf la bonne. Et on pense notamment avoir trouvé peut-être la cité biblique de Ophir, hein, la cité donc qui était proche du royaume de la reine de Saba et qui envoyait, en tout cas c'est ce que raconte la Bible, qui envoyait des cadeaux magnifiques au roi Salomon.
Donc ça c'est l'hypothèse du 19e siècle, c'est ça ?
Heureusement que le 20e siècle arrive.
Voilà.
Oui, alors
avec un peu de vérité.
C'est quoi l'explication ?
Il y a des recherches qui sont faites, enfin des recherches sérieuses qui sont faites au 20e siècle et assez vite on reconnaît que c'est bien une civilisation autochtone, une civilisation noire, les Shona, qui sont les auteurs de ce site fantastique.
À quoi servait ce site, ce grand Zimbabwe, ce grand monument circulaire ?
Alors, c'est là qu'on bute. C'est là que les scientifiques butent, on ne sait pas. On a des hypothèses. On pense qu'effectivement, cet énorme enclos dont je vous parlais tout à l'heure, c'était l'endroit où où vivait la reine, que le roi, lui, vivait sur une espèce de colline, elle aussi construite, fortifiée, sur laquelle il y a beaucoup de ruines magnifiques, et que là, donc, vivait le roi et les prêtres qui se livraient à des rites de divination, à des sacrifices, bon, voilà. Mais c'est vraiment des conjectures, hein. On a très très peu d'informations sur ce site.
Sur ce site, on a aussi retrouvé des oiseaux qui sont taillés dans une roche qui est très proche du talc.
Oui, la stéatite, ouais.
Est-ce qu'on connaît le rôle de ces oiseaux ?
Non.
C'est de la déco ?
Non, c'est pas de la déco. Alors visiblement, il y aurait eu un rôle.
Divinité.
C'est ce que racontent en tout cas les guides sur place. Hein. Il y aurait eu un rôle de... ces oiseaux auraient permis aux prêtres d'entrer en contact avec les dieux. Hein, ils auraient eu un rôle d'intermédiaire comme ça. Mais comment, au cours de quel rite, on ne sait pas.
Cet oiseau, il est encore présent dans le pays, au Zimbabwe ?
Oui, il a effectivement donné... c'est l'emblème du pays. En réalité, il est devenu le symbole de la Rhodésie, donc avant que ça ne devienne le Zimbabwe. Et puis à partir de 1980, quand le pays a obtenu son indépendance, c'est devenu le symbole du Zimbabwe. Il est sur le drapeau du pays.
Bon, allez, Cyril,
on continue de voyager.
Bah oui, on va reprendre. Hop, on va traverser l'Atlantique et on va se rendre sur le continent américain. On va se poser dans le nord du Pérou, dans la vallée de Lambayeque. Quel secret renferme-t-elle, cette vallée ?
Alors, dans cette vallée, on a trouvé des centaines, et je dis bien des centaines, de pyramides. Ces pyramides, on les a attribuées à une civilisation qu'on a nommée à partir du nom de cette vallée, parce qu'on n'a pas d'autre manière de les nommer, donc les Lambayeques, qui apparaissent donc comme visiblement l'un des peuples bâtisseurs les plus prolifiques du continent sud-américain, en termes de pyramides. Alors là, on est entre 850 et 1300 hein, de notre ère. Voilà.
À quoi ressemblaient ces pyramides ?
Alors voilà, elles ont une forme particulière. Ce sont pas des pyramides à l'égyptienne comme ça pointues. Ce sont pas des pyramides non plus à degrés comme les aztèques ou les mayas. Ce sont des espèces de plateformes, si vous voulez, très 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 larges. À la base, au niveau du sol, et puis voilà, qui est très plate au sommet. Et donc, ce sont des pyramides au sommet desquelles on accédait par un réseau d'escaliers, de passages, de passages extérieurs. Parce que la particularité de ces pyramides, c'est qu'elles sont pleines. Contrairement aux pyramides égyptiennes, elles ne renferment rien.
Ce ne sont pas des tombeaux.
Ce ne sont pas des tombeaux. Ce sont, on ne sait pas trop quoi.
on ne sait pas à quoi elles servaient.
On a retrouvé au sommet de certaines des restes d'habitations, des restes d'animaux sacrifiés, peut-être mangés. Donc, probablement qu'on y vivait sur ces sommets de pyramides, mais fondamentalement, on ne sait pas.
Et pourquoi il y en a autant ? Parce que cette civilisation, ce peuple qu'on appelle donc les Lambayeques, étaient des nomades ? C'est peut-être une explication ?
Non, alors c'est plus compliqué que ça. Visiblement, ces pyramides, elles avaient une fonction d'imitation des montagnes. Ces peuples, visiblement, vénéraient les montagnes et cherchaient à reproduire ce relief, donc en construisant le plus possible de pyramides. Mmh. Pour répondre à votre question, ce n'étaient pas des peuples de nomades, mais c'est vrai qu'ils ont changé fréquemment de lieu. Et là aussi, on se demande pourquoi. Ils ont commencé par arriver dans une zone au nord du Pérou. Ils y sont restés quelques centaines d'années. Et puis, probablement après ce qui a dû être un épisode d'inondation catastrophique, ils ont quitté ce lieu, sont partis à quelques kilomètres, pas très loin, et ont reconstruit des pyramides sur ce lieu, qu'ils ont ensuite requitté pour cette fois-ci disparaître de la surface de la Terre.
Allez, encore une autre histoire, une autre civilisation mystérieuse dans un instant. les Étrustes. Qui était cette première grande civilisation d'Italie qui a disparu il y a plus de 2000 ans? Pourquoi faisaient-ils tout en musique, y compris fouetter leurs esclaves?
Allons bon.
Vous allez rester sur RTL, je crois.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Elles ont construit notre monde et puis soudainement elles ont disparu. On part sur les traces de ces civilisations anciennes grâce au magazine Ça m'intéresse et journaliste Cyril Azouvi. Alors on s'intéresse maintenant aux Étrusques. Qui sont les Étrusques? Où et quand ont-ils vécu?
Alors les Étrusques, en fait, c'est la première grande civilisation qui occupe l'Italie. Et on est entre moins 750 et moins 250. Ils occupent une région, grosso modo, qui correspond à la Toscane et au Latium aujourd'hui.
Et donc voilà. Ils créent quoi? Les premières villes italiennes, par exemple?
Ils créent tout, en réalité, puisque avant eux, il y a pas grand-chose de construit, si vous voulez, pas grand-chose d'institué. Donc ils créent tout, ils créent effectivement les premières villes. On en a retenu quelques-unes, enfin certaines existent encore, Arezzo, Pérouse, Bologne, voilà, des villes comme ça.
Et le grand mystère autour de cette civilisation étrusque, c'est d'où venait-il?
Alors effectivement, la question occupe les historiens depuis l'Antiquité, depuis Hérodote qui clame que les Étrusques viennent de loin, c'est-à-dire probablement de Turquie, enfin de la Turquie actuelle. D'autres historiens grecs soutiennent que non, c'est pas possible, les Étrusques viennent d'Italie même, ou en tout cas de la région. Et en fait, le débat n'est pas vraiment tranché encore aujourd'hui.
Et puis un mystère aussi autour de leur langue qui ne ressemble à aucune autre langue.
Oui, alors effectivement, ça aide pas à comprendre d'où ils viennent, puisque leur langue n'est pas une langue indo-européenne. Elle ne correspond effectivement à aucune racine de ce qu'on connaît. Et donc, ça brouille les pistes, si vous voulez.
Alors, si Denis le disait tout à l'heure, l'une des caractéristiques de cette civilisation étrusque, c'est la musique.
Oui, c'est vrai que c'était un peuple musicien, il faisait tout en musique, il chassait le sanglier, il boxait, il préparait le pain, il fouettait leurs esclaves, effectivement.
Il fouettait leurs esclaves en musique?
En musique, et puis il faisait la guerre
aussi. C'est peut-être moins douloureux, remarque.
C'est une perversion intéressante, ça.
C'est pour cacher les bruits, je pense.
Ah!
Les cris.
Alors, ceci dit, on ne sait pas exactement pourquoi... Non, pardon.
Non, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'imagine si Denis...
Comment on sait qu'ils écoutaient de la musique? Parce que ça paraît un peu fou de dire ça, c'était quand même...
Comment on peut dire qu'ils fouettaient leurs esclaves en musique, c'est vrai?
La plupart des choses qu'on connaît sur les Étrusques viennent des fresques qu'on a retrouvées sur les tombeaux et qui donnent beaucoup, beaucoup d'informations sur cette...
Oui, on voit des instruments, on voit des scènes de vie.
Notamment les flûtes qui sont très présentes.
Alors, ils pensaient avoir des pouvoirs surnaturels également.
Oui, alors c'est vrai que dans l'Antiquité, ils étaient connus pour être des peuples de devins, des peuples qui savaient interpréter efficacement les signes de la nature. Ils lisaient dans les entrailles des animaux, notamment. Et lorsqu'ils ont été conquis par les Romains ont très vite identifié chez eux ce talent. Les Romains, évidemment, avaient leurs propres aruspices, avaient leurs propres devins, mais leur science divinatoire était finalement très simpliste par rapport à celle des Étrusques. Et donc, les Étrusques ont naturellement, dans cette société, dans cet empire romain dans lequel ils se sont fondus, occupé ces emplois. Voilà.
Il y a un autre mystère autour de cette civilisation des Étrusques, ce sont les femmes. Ces femmes, comment est-ce qu'elles sont représentées sur ces fameuses fresques qui sont un peu des livres d'histoire pour nous?
Oui, alors les femmes étrusques ont défrayé la chronique antique, puisque sur les fresques, on les représente effectivement participant au banquet.
Quoi? Mais quel scandale!
Oui, c'est ça. C'est exactement ce que disent les Grecs et les Romains, pour qui la femme étrusque est donc une dévergondée qui probablement s'offrait à tout le monde, à n'importe qui, se prostituait, enfin bref, était coupable de tous les vices. Et alors, bon, évidemment, c'est très fantasmé, mais ce qui est vrai, la réalité, c'est que la femme étrusque avait probablement un vrai statut, une vraie existence.
Et une forme de liberté aussi.
Une existence juridique et une forme de liberté que n'avait pas la femme grecque et romaine.
Le mot étrusque, on sait qu'est-ce qu'il veut dire, quelle est son origine?
Non, on ne sait pas, mais il a fini par devenir, dans le latin de l'Empire romain, synonyme de prostituée. Etrusca, ça voulait dire prostituée.
Ah, on est dans ce fantasme dont vous parliez. Voilà.
Et ces femmes étrusques, elles avaient un nom et un prénom. Ça aussi, c'était fort pour l'époque.
C'est ce qui permet de penser qu'elles avaient une existence juridique. C'est que dans l'Empire romain et chez les Grecs, les femmes n'étaient identifiées que par leur nom de famille. Là, les femmes étrusques avaient un prénom. Et c'était écrit sur leur pierre tombale. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le sait. Donc voilà, il y avait une vraie reconnaissance, une vraie identité.
Alors Cyril Azoulay, le propre de ces civilisations disparues, c'est de charrier, on l'a compris, tout un lot de mystères. Et du coup, le propre du dossier de Ça m'intéresse, c'est de laisser pas mal de questions sans réponse. Oui, c'est logique,
c'est
parfaitement
un peu une arnaque,
hein, logique. Non, je n'ai pas dit ça. Mais par exemple, la dernière question concernant les Étrusques, c'est comment ont-ils disparu?
Alors ça, pour le coup, on le sait.
Ah, voilà une réponse. Vous
voyez,
autant terminer sur une bonne... positif.
On sait, ils ont été tout simplement conquis par les Romains, militairement défaits, occupés et puis assimilés progressivement par l'Empire romain.
Est-ce que notre civilisation pourrait disparaître? Quelles conditions faut-il réunir?
Alors ça, c'est le sujet du prochain dossier.
Ça, vous bottez en touche parce que vous n'avez pas encore, vous n'avez pas la réponse.
Non,
ça,
c'est
Cyril Azoulay.
C'est difficile à dire. Si on a encore deux minutes, il y a un historien, effectivement, Jared Diamond, un historien américain, dont l'essai en 2005 a fait couler énormément d'encre. Son livre s'appelle Effondrement. Et c'est vrai que lui prend comme exemple quelques grandes civilisations, notamment la civilisation de l'île de Pâques, les Anasazis, les Mayas, et il essaye de, si vous voulez, de s'inspirer de ce qui a provoqué le déclin de ces civilisations pour voir si nous aussi on est en train d'expérimenter la même chose.
Donc et des signes vrai, avant-coureurs qu'il trouve.
Oui, et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont qui
font
froid dans le dos, bah, notamment l'épuisement des ressources naturelles. Ça, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, sur lequel on est informé abondamment qu'ont expérimenté toutes ces civilisations. Si vous voulez, à chaque fois qu'il y a eu un déclin ou un effondrement de cette civilisation, on ne sait pas exactement ce qui a été le déclencheur, mais il y a toujours eu un appauvrissement des ressources naturelles.
Oui, et on ne parle pas forcément de guerre d'ailleurs, on parle plus
non.
de ces appauvrissements.
C'est rare
et de...
En fait, c'est rare qu'une guerre mette à bas une civilisation entière. Mmh. En revanche, un appauvrissement du milieu, on ne peut rien faire contre.
Merci beaucoup Cyril Azoulay, c'était absolument passionnant. Il y a encore plein d'histoires et de peuples à découvrir dans ce dossier de Ça m'intéresse que vous pouvez trouver dès maintenant en kiosque. À très bientôt, micro de la curiosité.
Merci Cyril, à bientôt.
Vous écoutez RTL.